Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons poursuivre nos échanges de la semaine dernière sur les auteurs catholiques des îles britanniques avec mon invité Jean Duchesne, professeur honoraire de chaire supérieure qui a donc enseigné en classe préparatoire et qui a participé à la publication d'un dictionnaire des auteurs catholiques des îles britanniques qui est paru aux éditions du Cerf où il y a plusieurs co-auteurs qui ont participé à présenter un grand nombre d'auteurs, certains très connus du public français, d'autres moins. Et la semaine dernière, nous évoquions le rapport des catholiques au monde britannique, les différents courants historiques aussi qu'il y a pu y avoir, les apports littéraires. Et je vous propose cette semaine de s'intéresser à quelques auteurs. Évidemment, nous ne pourrons pas tout aborder, mais d'évoquer quelques auteurs et le rôle qu'ils ont pu avoir, même si pour chacun on pourrait consacrer une émission entière, cela vous donnera un aperçu de la grande variété de cette littérature anglaise. On a souvent tendance à considérer que seuls les Français ont une littérature conséquente, alors que les Anglais ont aussi un très grand courant littéraire. Et je vous propose, pour commencer cette émission, d'évoquer les auteurs catholiques de l'époque médiévale, donc avant la création de l'Église anglicane, des auteurs catholiques, enfin les auteurs catholiques par la force des choses, puisqu'il n'y avait que le catholicisme, des auteurs chrétiens qui ont beaucoup apporté à la spiritualité et dont l'apport est manifeste. Et ce que vous montrez, Jean Duchesne, dans votre dictionnaire, c'est que parmi ces auteurs, il y a beaucoup de laïcs, donc des gens qui ne sont pas dans des monastères, qui sont des hommes mariés, ayant famille, et qui participent à la création, au développement d'une littérature spirituelle.
Voilà. Alors, avant d'en venir à cela, ce qui est intéressant de voir, c'est que la littérature catholique dans les îles britanniques commence avant même le Moyen-Âge, puisque l'auteur le plus ancien qui se trouve donné parmi les 500 et quelques de ce dictionnaire, ce n'est autre que Pélage, qui a vécu à la fin du 4e siècle, au début du 5e, qui est un contemporain, si vous voulez, de saint Augustin. Alors Pélage, bien sûr.
Ils sont un peu fâchés. Enfin, il y a eu une controverse entre les deux.
Il y a eu une controverse de Pélage avec saint Jérôme et aussi avec saint Augustin. Mais je veux dire, il y a aujourd'hui un courant en Angleterre de réhabilitation de Pélage, qui n'a jamais été d'ailleurs condamné si formellement, et dont nous ne savons pas ce qu'il pensait exactement, puisque tout ce que nous avons, ce sont les textes de lui qui sont cités par ses détracteurs. Et Pélage, en même temps, dit quelque chose qui n'est pas faux en soi, à savoir que l'homme bénéficie d'une certaine liberté, et qu'il ne doit pas tout attendre de la grâce, mais que sa volonté aussi doit s'exercer. Donc il est possible d'avoir une lecture positive de Pélage, même si, bien entendu, on ne peut pas aller à l'opinion qu'on lui a prêtée, qui est que l'homme fait par ses propres moyens son salut, il suffit de recevoir les lumières, puis après, il fait tout seul. Ça, c'est le pélagianisme qui a été condamné. Mais il n'est pas sûr que Pélage ait dit cela. Et Pélage, c'est intéressant, c'est le premier de ces natifs des îles britanniques qui passent sur le continent, qui viennent à Rome, qui ont du succès à Rome, et dans le cas de Pélage, il ira même jusqu'en Tunisie, jusqu'en Afrique du Nord plutôt, pour essayer de rencontrer Saint Augustin, il ne réussira pas, et finalement il mourra à Jérusalem. Mais après lui, il y a beaucoup de gens qui ou bien viennent des îles britanniques, et joueront un rôle dans l'histoire de l'Église, ou bien viennent du continent et s'installent dans les îles britanniques. Pour ceux qui viennent du continent, donc beaucoup de théologiens du Moyen Âge ont été formés à Oxford, puis viennent se perfectionner à Paris, et même que ça, bien des professeurs d'Oxford viennent ensuite enseigner à Paris. Et inversement, des Parisiens ou des gens du continent vont enseigner à Oxford. Alors, il y a deux cas. Il y a un cas célèbre qui est le premier grand théologien médiéval, c'est Saint Anselme. Donc, Saint Anselme, c'est un Italien du Val d'Aoste, qui devient l'abbé du Bec et Loing en Normandie. Et à partir de là, puisque la Normandie a conquis avec Guillaume le Conquérant, l'Angleterre, il devient archevêque de Canterbury. Et on sait l'importance qu'a eu Saint Anselme dans l'histoire de la théologie et de la philosophie. Hein, c'est le fameux Fides Quaerens Intellectum, la foi en quête de sa propre intelligence. Il faut bien voir que, donc, c'est très intéressant de savoir que Saint Anselme, eh bien oui, figure dans les auteurs catholiques des îles britanniques, puisque quand il écrit, ben, il est archevêque de Canterbury.
Pourquoi
même s'il est italien. Avant lui, on pourrait aussi citer le fameux Lanfranc du Bec, qui est aussi un italien, lui aussi devenu archevêque de Canterbury avant Lanfranc. Et c'est lui le premier à formuler de manière un peu rigoureuse la thèse de la transsubstantiation au sujet de l'Eucharistie. Alors, faut pas se tromper sur Saint Anselme quand il dit que la foi est quelque chose de rationnel ou a une partie rationnelle, même fait accéder à une rationalité supérieure à la rationalité ordinaire fondée sur la simple expérience. Eh bien, ce n'est pas contre l'athéisme qu'il s'insurge, parce qu'il n'y a pas d'athée de son temps. Ça n'existe pas. Mais il s'insurge contre une tentation de spirituel, on dirait aujourd'hui d'illuminé, plus ou moins charismatique, qui dit que Dieu est tellement grand qu'il n'y a rien à comprendre. Et Saint Anselme dit non, il y a quelque chose à comprendre parce que le Dieu n'endort pas notre intelligence, mais il la dope, littéralement.
Il y a aussi les moines irlandais qui ont contribué à une partie d'évangélisation de l'Europe occidentale.
Absolument.
Et qui ont aussi un rôle intellectuel majeur.
Absolument. Absolument. Alors, bien sûr, il y a évidemment Saint Patrick, mais aussi Saint Winfrid, qu'on a plus connu sous le nom de Saint Boniface. Et puis le rôle, il faut pas oublier que celui qui permet à Charlemagne de créer des écoles, de rétablir une culture, Alcuin est aussi un moine anglais.
Boniface, qui était jusqu'en Germanie,
voilà,
et dont le blason, enfin l'ours, a servi de blason au pape Benoît XVI.
Exactement.
Donc là aussi, il y a une
situation. Voilà, il y a une continuité, c'est une longue histoire. Bon, si vous entendez, l'importance de Saint Colomban, qui vient établir le grand monastère de Luxeuil, qui sera persécuté par les fameuses reines franques, qui étaient vraiment des mégères et sanguinaires.
Ce qui montre aussi que au moment où l'Empire romain disparaît, même s'il y a des États qui se créent, les intellectuels, on est comme ça, même si c'est un anachronisme, ces moines circulent à travers l'ancien Empire romain. Ils ont là une langue en commune qui est le latin,
voilà.
Et donc ils échangent. Et on a encore toujours ces échanges intellectuels à travers ce qui est en train de devenir l'Europe.
Voilà. Exactement. Et là-dedans, on peut dire que aujourd'hui, enfin, quand on regarde l'histoire littéraire, l'histoire religieuse, l'histoire de la philosophie, le Brexit est un non-sens. Alors, ce que vous avez signalé tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus, que je n'ai pas répondu directement à votre question. Vous avez parlé de ces laïcs extraordinaires, vous avez mentionné ces laïcs extraordinaires de la fin du Moyen-Âge. Hein. Alors, on se retrouve là en présence d'un phénomène tout à fait étonnant, qui est peu connu en France et qui mérite de l'être, et qui est donc l'apparition d'auteurs mystiques, qui sont des laïcs, et même des femmes, et même parmi eux des femmes. Alors, ça commence, si vous voulez, au moment de la première moitié du XIVe siècle, avec Richard Rolle, R-O-2-L-E, donc, qui est un personnage assez mélangé. C'est un illuminé, un solitaire, mais qui a des visions et qui sait les partager. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un mystique, mais il a reçu, notamment, des grâces mystiques d'avoir un certain perception de Dieu, mais en quel il reçoit la grâce de les partager et d'encourager à chercher Dieu. C'est quelqu'un qui, le premier qui dise, c'est peut-être très laïque et pas clérical, il dit, je n'ai pas trouvé Dieu, mais je me suis aperçu que lui me cherchait. Voilà, c'est cela en quelque sorte qu'il veut partir. Alors il y a donc Richard Roll. Alors après il y a donc un autre qui est tout à fait intéressant. Alors là on est vraiment à la fin du XIVe siècle. C'est Walter Hilton qui se trouve un petit peu dans la même remarque. Alors, ce qui est remarquable à l'époque, c'est que ces gens-là donc sont en général des ermites. Où ils se vont un certain temps dans un couvent, puis ne réussissent pas à y rester. Ils sont un petit peu, comment dirais-je, girovagues. Mais en même temps, ils exercent un rayonnement extraordinaire, cette espèce de fou en Dieu. Et ils parlent. Et on note. Et ceci, avant même l'invention de l'imprimerie, seulement au XIVe siècle, va être recopié et circulé. Et ça, c'est un phénomène tout à fait étonnant. C'est-à-dire que tous ceux qui savent lire, spécialement évidemment des commerçants surtout, peu les gens qui cultivent la terre, mais ceux qui habitent dans les villes, qui ont donc recours à l'écrit, eh bien vont montrer dès le XIVe siècle une gourmandise en quelque sorte pour les choses spirituelles, pour la quête de Dieu. Et des écrits comme ceux de Richard Roll et de Walter Hilton vont être recopiés indéfiniment. C'est extraordinaire le nombre de manuscrits, de bouts de manuscrits qu'on a, des illuminations, des révélations de Roll et de Hilton. Alors il y a un autre ouvrage qui est tout à fait intéressant, qui déduit aussi de la même époque, de la fin du XIVe siècle, l'auteur est anonyme, qui s'appelle Le nuage de l'inconnaissance. Pourquoi l'inconnaissance? C'est parce que, en quelque sorte, plus on s'approche de Dieu, plus on s'aperçoit qu'il s'éloigne, et plus on se rend compte qu'on ne peut pas l'étreindre et qu'en fait, on ne le connaît pas. Et il y a à un moment donné un retournement qui est que cette inconnaissance qui pourrait donner lieu à une frustration suscite un abandon et que cet abandon c'est finalement le secret de Dieu lui-même qui se donne alors qu'il n'y est pas obligé, alors que rien ne lui oblige dans la gratuité de son amour. Alors il y a un personnage, maintenant c'était pour terminer là-dessus, on ne peut pas trop, on pourrait parler pendant des heures là-dessus. Deux femmes, pas une, la première étant plus importante que la seconde, qui n'est que sa disciple lointaine. Donc la femme, c'est Dame Julienne de Norwich. Elle est tout à fait extraordinaire. C'est donc quelqu'un qui manque de mourir à l'âge de 30 ans, et puis qui a au moment qui dans son agonie, ce qu'elle pense être son agonie, a une vision. La croix lui apparaît. Et elle s'en sort. Et elle va se construire une cabane sur le chevet de l'église Saint-Julien de Norwich. Alors Saint-Julien, pourquoi? Parce que ça a été fondé par des gens qui venaient de Normandie, exactement du Mans. Vous savez, la cathédrale du Mans s'appelle Saint-Julien. Et donc, en l'honneur de l'évangélisateur du Maine. Et donc, l'église de Norwich, hein, c'est dans le nord-est, centre nord-est de l'Angleterre, a été nommée, baptisée, dédiée à Saint-Julien. Et comme elle a construit une cabane, qui va finir mettre en pierre, sur le chevet de l'église Saint-Julien, on va l'appeler Dame Julienne de Norwich. Alors elle a ses visions. Et ces visions insistent beaucoup d'abord, je pense, sur la nécessité du dépouillement et du pardon. Et en même temps, ce qui est extraordinaire chez Julienne de Norwich, c'est sa confiance. C'est-à-dire que elle montre que la foi, c'est quoi? C'est que quand je suis au fond du trou, quand je me noie, quand je pense que je ne vais même plus pouvoir respirer, eh bien, je sais, c'est ça le besoin, à la fin, tout sera bien. Alors, il y a encore une autre disciple de Julienne de Norwich, qui est un petit peu plus exaltée, qui est un personnage excessif, qui a aussi des visions, qui est Marjorie Kemp. Enfin, en tout cas, on a là, entre Richard Roll, Walter Hilton, Dame Julienne de Norwich, Le nuage de l'inconnaissance et Marjorie Kemp, donc une palette absolument extraordinaire de mystiques spontanés, qui est laïque, et en partie féminin, qui montre bien, en quelque sorte, la profondeur de l'incrustation, en quelque sorte, de la foi catholique dans l'histoire de la Grande-Bretagne.
Alors, on fait un saut de plusieurs siècles pour arriver à William Shakespeare, parce que c'est probablement l'auteur anglais le plus connu et le plus lu à travers le monde, que vous classez parmi les auteurs catholiques, ce qui pourra peut-être surprendre, mais avec des arguments tout à fait convaincants. Et est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose aussi qui irrigue son œuvre, ou parce que vous expliquez aussi que à cette époque-là, les catholiques étant persécutés, ils doivent aussi se cacher et donc faire attention à ce qu'ils peuvent dire.
Alors, comment dirais-je, Shakespeare était tout à fait caractéristique d'une catégorie de catholiques. Il y a, à partir de la séparation, il y a toute une polémique au sein des catholiques anglais, parmi eux. Hein. Alors, est-ce que on se rédit, on témoigne et on court au martyr, ou est-ce que on essaye de survivre pour transmettre la foi? Il est clair que Shakespeare appartient à la deuxième solution. Il n'est pas il ne prend pas de risque. Il n'empêche que, alors là, bon, on n'a pas choisi de développer ce point-là. Donc, il y a des facteurs biographiques, historiques, qui permettent de conclure que son père était sans doute récusant, c'est-à-dire secrètement catholique, c'est ce qui expliquerait sa ruine et pourquoi William aurait dû passer au théâtre pour essayer et quitter le pays pour essayer de gagner sa vie. Mais ce qui me paraît plus important, c'est le nombre de citations des évangiles que l'on trouve cachées dans son œuvre.
Et vous dites aussi dans une version qui est une version interdite, enfin, qui est une version d'une Bible catholique.
Voilà, voilà. Donc il est clair que Shakespeare lisait la Bible et lisait sans doute une Bible catholique. Et donc on trouve émerge un tas de d'expressions, d'images même empruntées à saint Paul pour prendre un seul exemple, si vous voulez, dans Hamlet. Hamlet, une tragédie de l'échec, de l'impuissance. Eh bien, avec notamment l'idée de la flèche qui est tirée, et qui est tirée trop haut, qui passe par-dessus le toit. Hein, et ça, c'est une expression qui est tirée directement de saint Paul. Et donc, l'idée, je fais le bien que je ne fais pas le bien que je veux, c'est ce que dit Hamlet, mais c'est ce que dit saint Paul aussi. Et donc, il y a une forte présomption que Shakespeare était certainement pas catholique ouvertement, parce qu'il n'aurait pas pu faire carrière, mais disons au moins crypto-catholique.
Comment fonctionne la...
C'était un petit peu confirmé par la thèse ou le travail d'un des derniers poètes lauréats, qui est un grand poète du XXe siècle, Ted Hughes. Qui a montré, le catholicisme profond de Shakespeare dans un ouvrage qui est Shakespeare, The Goddess of Complete Being. Shakespeare est la déesse de l'être complet.
Comment fonctionne le monde du théâtre à l'époque de Shakespeare, notamment dans la publication des textes? Est-ce qu'ils sont imprimés ou est-ce que c'est une transmission orale des textes, de la manière dont les pièces sont jouées?
Non, alors les textes sont rédigés pour que écrits à la main et recopiés pour que les acteurs puissent les apprendre. Hein? Et puis ensuite, il y a des éditions. Le problème est qu'à l'époque, le droit d'auteur n'est pas régi de manière aussi rigoureuse que maintenant, et qu'il y a pas mal d'éditions pirates. Voilà. Donc, la grande édition des œuvres de Shakespeare est postérieure à Shakespeare lui-même. Hein. Il s'appelle la fameuse édition Folio.
Et son succès se fait de son vivant, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment une renommée très importante. On apprend que c'est l'auteur l'auteur anglais par excellence. Oui. Est-ce que c'est déjà à l'époque de son vivant, ou ça s'est construit après, sa postérité?
Non, ça s'est construit après, parce que ce qui se passe après Shakespeare, c'est le règne de Charles Ier, puis de Charles II, donc ce que les Anglais appellent la guerre civile, la Révolution.
Hein, 1888.
C'est encore après. Il faut pas oublier que les Anglais coupent la tête de leur roi 144 ans, presque jour pour jour, avant les Français. Hein, c'était en janvier 1649. En français, c'est en janvier 1793. Hein, la Révolution vient seulement 101 ans. Avant la révolution, parce que c'est 1688, et que c'est une révolution qui n'est pas sanglante. Donc voilà, donc nous, il faut changer les mots, changent un petit peu de sens. Mais Shakespeare donc est mis dans l'oubli après, est plongé dans l'oubli et négligé à cause de la domination des puritains qui sont contre le théâtre. Frivolité. Donc et après, à la Restauration, peut-être de la Restauration, c'est le classicisme qui l'emporte, dont d'ailleurs le principal auteur classique anglais, Alexander Pope, il s'appelle Pape, c'est extraordinaire pour un papiste, eh bien, qui est un poète, aussi un maître des arts et des lettres dans la première moitié du XVIIe siècle, était catholique. Un extraordinaire petit bonhomme, il ne devait pas mesurer plus d'1m50, n'est-ce pas ? Et il était exilé, il tenait salon en dehors de Londres, parce qu'en tant que catholique, il n'avait pas le droit d'y entrer. Mais son rayonnement de poète était tel qu'il attirait l'humour. À l'époque de Pope, à l'époque du classicisme, on va même rendre Shakespeare plus correct. Parce que dans Shakespeare, il y a des choses un peu salées quand même. Et puis, il ne respecte pas les trois règles, les unités de temps, de lieu, d'action, etc. Donc, on va faire des versions expurgées. Et puis, c'est le romantisme qui va redonner toute son audience à Shakespeare.
Et là, on revient au texte d'origine.
Le meilleur exemple de cette audience du romantisme redonnée par les Anglais et répandue dans le monde entier, c'est lorsque le célèbre acteur Keane vient à Paris pour jouer la pièce en anglais. Dans l'assistance, il y a Hector Berlioz. Il joue Roméo et Juliette et Berlioz tombe amoureux de l'actrice qui joue Juliette et il l'épousera.
Et à ce moment-là, est-ce qu'on revient au texte d'origine de Shakespeare ? Il y a un travail sur le travail des textes, de réédition ?
Il y a sur Shakespeare un travail d'exégèse qui est presque aussi compliqué, pointilleux, polémique que sur la Bible.
Le fils de Victor Hugo, d'ailleurs, a traduit des textes.
Bien sûr, oui, François Victor Hugo a traduit beaucoup de choses. Donc, la traduction est toujours quelque chose de très difficile. Très difficile. Pourquoi ? Parce que, comment dire, il y a beaucoup de jeux de mots. Il est très difficile de les faire passer, en français. Et puis, d'autre part, il y a le rythme du vers. Par exemple, quand je dis en français « être ou ne pas être », telle est la question, alors je peux mettre de l'emphase, mais il faut que je la trouve. Alors qu'en anglais, l'emphase est déjà dans le rythme, qui est « to be or not to be, that is the question ». Donc vous avez, c'est un rythme iambique, hein, une syllabe non accentuée, suivie d'une syllabe accentuée, « to be or not to be », voilà. Et donc, le texte même, quand on le dit en anglais, la langue anglaise elle-même porte la manière de le jouer. Et quand on le traduit, effectivement, ça devient beaucoup plus difficile. Et là, en quelque sorte, c'est l'arbitraire ou, quelquefois, mais rarement, le génie de l'acteur.
Merci Jean Duchesne d'avoir évoqué pour Conflit ces sujets de la littérature anglaise et de nous avoir montré son importance dans l'histoire du monde britannique. Je rappelle le titre de l'ouvrage auquel vous avez contribué, Dictionnaire des auteurs catholiques des îles britanniques, paru aux éditions du Cerf. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit, site sur lequel, dans notre boutique en ligne revueconflit.com, vous pouvez également retrouver notre hors-série actuelle Regard sur la guerre, faire la guerre au XXIe siècle, ainsi que notre numéro de l'automne, dont le dossier est consacré au cyber. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.